بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on a terminé maintenant d'expliquer la semaine passée Kitab At-Tahara, le chapitre qui parle de la pureté, et donc aujourd'hui on est au cours numéro 9 de la série de l'explication du livre Al-Mulakhas Al-Fiqhi écrit par le Cheikh Saleh Al-Fawzan, et donc on continue notre explication inshallah, et aujourd'hui donc on entre dans un nouveau chapitre qui est le chapitre de As-Salah, Kitab As-Salah. Et c'est un chapitre qui contient 30 sous-chapitres, 30 questions. Donc, Inch'Allah, on va les étudier une par une. Et comme je répète encore une fois, pour clarifier que c'est un livre qui est quand même un livre qui mentionne quand même assez, un nombre assez nombreux de questions avec les preuves, mais c'est un livre quand même qui est assez résumé. Donc on peut dire que c'est une sorte d'introduction au fiqh, et donc il faut par la suite continuer à augmenter notre compréhension et notre connaissance du fiqh par la suite, en entrant par la suite ou en étudiant par la suite des livres un peu plus avancés dans le domaine. Mais c'est une bonne base, disons, pour quelqu'un qui veut connaître comment établir ces adorations-là, puis comment établir les règles de l'islam dans sa vie. Non. Donc, on va commencer, Inch'Allah, le Cheikh il dit. باب في وجوب الصلوات الخمس. Donc le premier chapitre dont on parle dans Kitab As-Salah, c'est le chapitre de l'obligation des cinq prières. D'accord? Donc c'est ce qu'on va commencer à expliquer maintenant. Le cheikh dit الصلاة هي أكد أركان الإسلام بعد الشهادتين وقد شرعت على أكمل وجوه العبادة وأحسنها. La salat, c'est un des plus importants parmi les piliers de l'islam après les deux témoignages de la ilaha illallah et Muhammad Rasulullah. Yani ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Et ça a été légiféré parmi les meilleures formes d'adoration et donc les plus parfaites et les plus complètes parmi les formes d'adoration. Et le cheikh dit وقد تضمنت هذه الصلاة كثيرا من أنواع العبادة من ذكر الله وتلاوة لكتابه وقيام بين يدي الله وركوع وسجود ودعاء وتصبيح وتكبير. Et cette adoration là qui est la salat, elle réunit un grand nombre de différentes formes d'adoration en même temps. Par exemple, le fait de se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala, ذكر de réciter le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est une autre adoration, le fait d'être debout, de se tenir debout devant Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de s'incliner devant Allah subhanahu wa ta'ala et de se prosterner, également le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de louanger Allah ou de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, et le fait également de faire le takbir, c'est-à-dire de dire que Allah subhanahu wa ta'ala est le plus grand. Donc tout ça c'est des adorations qui sont incluses à l'intérieur de cette adoration là. Le cheikh dit wa hiya ra's al ibadat al badaniyya wa lam takhlu minha shari'atu rasulin min rusulillah alayhim as-salatu was-salam. Il dit que c'est la tête de toute adoration physique et aucune des sharia des messagers parmi les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala n'en a été c'est-à-dire elle n'a pas été absente d'aucune des législations des messagers qui ont été envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala auparavant. Après le cheikh il dit وَقَدْ فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتِمَ الرُّسُلِ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ فِي السَّمَاءِ بخلاف سائر الشرائع فدل ذلك على عظمتها وتأكد وجوبها ومكانتها عند الله. Le cheikh il explique que cette salat elle a été ordonnée par Allah subhanahu wa ta'ala et rendue obligatoire sur son messager, le dernier parmi les prophètes, le sceau des prophètes, durant la nuit du Mi'raj, c'est-à-dire la nuit de l'ascension aux cieux, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a fait monter son messager aux cieux. Et c'est durant cette nuit-là que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré les cinq prières, contrairement aux autres formes d'adoration qui n'ont pas été légiférées de cette façon-là. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala a voulu légiférer cette adoration-là et cet ordre-là parmi les règles de l'islam directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam et non par l'intermédiaire de Jibril comme les autres formes d'adoration. Et au début, bien entendu, comme l'explique le hadith qui mentionne ce rapport-là ou cet événement-là, ça explique qu'au début c'était 50 salats, c'était obligé de faire 50 salats, puis par la suite le prophète Moussa alayhi salam a demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi salam de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de diminuer le nombre parce que par crainte que ce soit trop dur pour sa umma, d'accord. Et c'est ce qui est arrivé par la suite, alhamdulillah. Allah il a diminué le nombre des salawat à 5 et il a dit que chacune de ses prières avait 10 fois leur valeur, donc ça donnait le total de 50, avec la récompense pour 50 prières, même si on en fait seulement 5. Ensuite, j'ai dit, fadala dhalika ala azamatiha, c'est-à-dire, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré la salat directement, sans intermédiaire, au jugement de, au jour de Al-Mi'raj, le jour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté aux cieux, ça montre la grandeur de l'importance de cette adoration-là, et ça montre également le fait que c'est une obligation plus certaine et plus claire encore que les autres formes d'adoration, et ça montre le statut que cette adoration-là a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également il y a juste pour mentionner en passant que le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a fait monter son serviteur durant le Mi'raj vers lui dans les cieux, ça montre que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création, comme il s'est décrit lui-même dans son livre en disant qu'il est au-delà de son trône, et donc il faut croire en ça tel quel, sans faire la déformation des termes comme les gens de Bid'a, contrairement aux gens de Bid'a qui nient cet attribut-là à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقد جاء في فضلها ووجوبها على الأعيان أحاديث كثيرة وفرضيتها معلومة من دين الإسلام بالضرورة، فمن جحدها فقد ارتد عن دين الإسلام يستتاب، فإن تاب وإلا قتل بإجماع المسلمين. Donc le cheikh qu'est-ce qu'il explique ici, il dit que le mérite et l'obligation de cette prière, des cinq prières, elle est claire et elle est obligatoire à chaque individu musulman dans plusieurs hadiths. Ok? Et son obligation fait partie des choses qui sont parmi les choses qui sont connues par nécessité dans la religion de l'islam. Donc celui qui nie son obligation, alors il a apostasié la religion de l'islam. C'est comme s'il a quitté la foi, il a quitté la religion. Et l'obligation pour les responsables des musulmans et ceux qui dirigent les musulmans, c'est de pousser cette personne ou de demander cette personne de se repentir, hein, durant 3 jours. Et s'il ne se repent pas, alors dans ce cas, il sera exécuté par, selon le consensus de tous les musulmans, c'est-à-dire le consensus des savants de l'islam de toutes les époques, depuis le temps des sahaba jusqu'à nos jours, tout le monde est d'accord sur ce fait. Et le cheikh il dit par la suite, « وَالصَّلَاةُ فِي اللُّغَةِ الدُّعَى قَالَ تَعَالَى وَصَلِّ عَلَيْهِمْ نَعْمْ أَيْ أُدْعُ لَهُمْ » Donc le cheikh maintenant, après avoir expliqué l'obligation de la prière, expliqué clairement, il explique maintenant sa signification linguistique et sa signification dans la religion. Donc il dit premièrement que la salat, dans la langue arabe classique, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie ad-du'a. Hein? Ça veut dire que ça signifie le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala ou d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et il montre comme ça une preuve dans le Coran dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala utilise le terme de salat, hein, dans son sens linguistique. Il dit « وَصَلِّ عَلَيْهِمْ » et « أُدْعُ لَهُمْ » car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 103 de sourate Tawba « وَصَلِّ عَلَيْهِمْ » et ça veut dire, le cheikh dit ça veut dire « fais un dua pour eux ». C'est ça que ça veut dire. Après le cheikh il dit « وَمَعْنَاهَا فِي الشَّرَ أَقْوَالٌ وَأَفْعَالٌ مَخْصُوصَةٌ مُفْتَتَحَةٌ بِالتَّكْبِيرِ مُخْتَتَمَةٌ بِالتَّسْلِيمِ » سميت بذلك لاشتمالها على الدعاء. Donc le cheikh il dit que dans la charia, dans la religion, c'est quoi la salat? C'est une signification différente et supplémentaire à la signification linguistique, hein? Et c'est-à-dire que ce sont des paroles et des gestes, hein, des actions qui sont spécifiques et particuliers, qui sont débutées par le takbir, c'est-à-dire de dire Allahu Akbar, et qui sont terminé par le fait de faire le taslim, c'est-à-dire de faire assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaykum. Donc ça c'est le taslim et ça c'est ce qui termine la salat. Donc le cheikh il a donné cette définition là pour expliquer en gros c'est quoi la définition de la salat. Et on peut mentionner en même temps que ça doit être fait avec l'intention de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'établir l'obligation. Donc c'est une ibada. Ensuite, le cheikh il dit فَالْمُصَلِّي لَا يَنْفُكُّ وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِشْتِمَالِهَا عَلَى الدُّعَى. Et on l'appelle de cette façon, c'est-à-dire on l'appelle salat parce qu'elle comprend le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. فَالْمُصَلِّي لَا يَنْفُكُّ عَنْ دُعَى. La personne qui prie, elle ne cesse d'invoquer. Hein, durant la salat, elle ne cesse de faire différentes invocations. Et il dit, dans la prière, il y a différentes formes de dua. Il y a dua d'adoration, ou de sana, c'est-à-dire de glorification, ou de talab, c'est-à-dire de demande. Hein. Tu fais des doigts en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala, en le glorifiant, en mentionnant tous ses attributs de gloire et de grandeur, et également en lui demandant des choses. Hein, tu lui demandes de te donner la foi, la guidance, et toutes sortes de choses comme ça que tu désires de sa part. Donc le cheikh dit par la suite, « فَلِذَلِكَ سُمِّيَتْ صَلَاتْ » Hein, elle a été nommée salat à cause de ça, à cause du fait qu'elle est remplie d'invocations du début jusqu'à la fin. Le cheikh il dit وَقَدْ فُرِضَتْ لَيْلَةَ الْإِسْرَى قَبْلَ الْهِجْرَةِ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَالْلَيْلَةِ بِدُخُولِ أَوْقَاتِهَا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ. Le cheikh il dit qu'elle a été prescrite, hein, elle a été ordonnée la nuit de l'Isra. La nuit de l'Isra, c'est-à-dire la nuit du voyage nocturne, la nuit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été transporté de Mecca jusqu'à Beit al-Maqdis en Palestine, et par la suite qu'il a été élevé aux cieux cette même nuit-là. Donc c'est durant cette nuit-là, et le cheikh il dit que c'est avant l'Hijra, et c'était 5 salawat qui ont été ordonnées durant la nuit et le jour, et lorsque leur temps entre, C'est-à-dire lorsque, parce qu'on va, on va expliquer tout à l'heure, Inch'Allah, que chaque prière a un temps spécifique pour être, dans lequel elle doit être faite. Et donc, on peut dire que ces prières-là donc deviennent obligatoires lorsque leur temps commence. Et c'est obligatoire pour chaque musulman qui est mukallaf. Hein, on a expliqué déjà dans d'autres cours la définition de qu'est-ce que signifie être mukallaf. Et probablement qu'on va le mentionner encore une fois lorsqu'on va expliquer les conditions de la prière. Mais juste pour résumer, c'est que quelqu'un soit, il a atteint la puberté, il soit musulman, qu'il ait atteint la puberté et qu'il ait sa raison, et etc. Donc ça, c'est les conditions bien connues, et ça, c'est la plupart des adorations qui sont reliées avec ces conditions-là. Ensuite, le cheikh il dit: قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. C'est-à-dire les salawat, la prière, la salat, c'est une chose qui a été ordonnée et commandée, prescrite pour les mu'minines, c'est-à-dire pour les croyants, et dans des temps spécifiques, hein, dans des moments bien spécifiques durant la journée. Ay mafroudan fil awqat allati bayyanaha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi qawlihi wa fi'lihi. C'est-à-dire ça a été ordonné dans des périodes spécifiques bien clarifiées. Et ça a été clarifié par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par ses paroles et par ses actions également. Ensuite, il dit: wa qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata ila akhir al-ayah. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Al-Bayyinah, le verset 5, en passant le verset que j'ai mentionné tout à l'heure, إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Ça c'est verset 103 dans sourate An-Nisa. Et celui qu'on vient de mentionner, c'est le verset 5 dans sourate Al-Bayyinah. Et ça dit qu'ils n'ont été commandés que d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en lui vouant un culte exclusif, hein, et pur, et hunafa en pur monothéisme, et d'établir la salat. Donc ça faisait partie des preuves pour montrer que il faut établir la salat. Et après il dit: wa qala ta'ala wa aqimu as-salat fi mawadi'a kathira, qala ta'ala fi mawadi'a kathira min kitabih. Donc dans plusieurs endroits dans son livre, il a mentionné que il faut établir la salat. Et ce verset-là, c'est le verset 43 de sourate Al-Baqarah. Ensuite, il mentionne un autre encore qui dit: وَقَالَ تَعَالَى قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ. Verset 31 dans sourate Ibrahim. Dit à mes serviteurs qui ont cru qu'ils établissent la salat. Et dans un autre verset encore, قَالَ سُبْحَانَهُ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. Donc le cheikh il dit, donc ce verset c'est le verset 17 et 18 dans surat Ar-Rum. OK, dit: et louange à Allah subhanahu wa ta'ala, gloire à Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque vous hina tumsun, le soir, et lorsque vous à l'aube, donc le soir et à l'aube, glorifiez Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est à lui qu'appartient la louange dans les cieux et sur la terre, c'est-à-dire il est louangé dans les cieux et sur la terre. Et après Allah subhanahu wa ta'ala dit: wa ashiyan wa hina tuzhirun, dans la fin de la journée et à l'heure du milieu de la journée également, comme à la période de Zohr, voilà, durant le Zohr. Donc c'est différents moments de la journée dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit son rappel et sa glorification et son adoration. Et ça, c'est, on peut dire que c'est les périodes qui sont mentionnées dans le Coran de façon générale, parce qu'on sait que le Coran vient avec les explications générales des règles de l'islam sans rentrer dans tous les détails, tandis que la sunna elle clarifie tout ce qui a été expliqué de façon générale. Donc c'est pour ça qu'il faut retourner à l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour bien comprendre comment appliquer et dans quel moment ces prières-là sont obligatoires et comment on peut distinguer les moments différents de la journée dans lesquels les prières sont obligatoires. Et ça, on va l'expliquer dans le prochain chapitre, inshallah. Ou dans la prochaine sous-chapitre. Le cheikh dit « Faman ata alayhi waqtuha wa huwa balighun aqil wajabat alayhi illa ha'idan aw nufasa fala tajibu alayhima wala yaqdiyanha idha taharata ijma'an. » Donc le cheikh il dit que celui, la personne qui arrive sur qui arrive ce moment-là ou ce temps, le temps de la prière, et qu'il est baligh, c'est-à-dire qu'il a atteint la puberté, et qu'il est aqil, c'est-à-dire qu'il a sa raison, alors c'est obligatoire pour lui de faire sa salat, excepté si c'est une femme qui est ha'id ou nufasa, excepté si c'est une femme qui a ses règles, ou bien qui a des écoulements après avoir eu un accouchement. Fala tajib alayhima. Donc elle est pas, si c'est le cas de ces deux genres de femmes là, dans ce cas là c'est pas obligatoire pour elles, et elles n'ont pas à les refaire lorsqu'elles se sont purifiées selon l'ijma, c'est à dire selon le consensus des ulama, hein. ومن كان زائل العقل بنوم أو إغماء ونحوه وجب عليه القضاء حين يسحب. Donc la personne qui n'avait pas sa raison à cause du sommeil, ou bien à cause qu'il a été il était évanoui, ou des choses de ce genre, alors dans ce cas-là, c'est obligatoire pour eux de faire leur prière lorsqu'ils se réveillent ou lorsqu'ils retrouvent leur raison. Et le cheikh il mentionne le verset dans sourate Taha, le verset 14, « Wa aqimis salata li dhikri » et « Établissez la prière pour mon rappel ». Et il y a un autre verset, une autre preuve que le cheikh mentionne, c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim qui dit قال صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. Celui qui a dormi, qui a donc manqué à prière à cause de son sommeil, ou bien qu'il l'a oublié par oubli, alors celui-là il l'a pris lorsqu'il se souvient. D'accord? Donc celui qui se réveille, il prie, lorsqu'il a manqué la prière parce qu'il dormait, il se réveille, il prie, et l'autre qui a oublié, eh bien il prie lorsqu'il se souvient. Pardon. نعم. Donc le cheikh il continue par la suite et il dit ويلزم ولي الصغير أن يأمره بالصلاة إذا بلغ سبع سنين وإن كانت لا تجب عليه ولكن ليهتم بها وإن كانت لا تجب عليه ولكن ليهتم بها وليتمرن عليها وليكتب له ولوليه الأجر إذا صلى لعموم قوله تعالى ومن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. Donc le cheikh il dit, il dit que la personne qui est responsable, le tuteur ou bien le père, ou la personne qui a l'autorité sur un enfant, c'est lui qui est responsable de cet enfant, il doit lui commander d'établir sa salat lorsqu'il a 7 ans. À l'âge de 7 ans, il doit commencer à lui ordonner de faire la salat. Même si elle n'est pas obligatoire pour lui. C'est-à-dire, l'enfant de 7 ans, il n'a pas atteint la puberté. Donc, il n'est pas mukallaf, selon la charia. Sauf que, il est commandé de commencer à faire la salat à partir de l'âge de 7 ans. Donc, on lui commande de la faire. Et non pas parce qu'elle est obligatoire pour lui, mais pour qu'il prenne ou pour qu'il comprenne son importance et pour qu'il lui donne de l'importance. Également pour qu'il se pratique et qu'il s'entraîne à la faire. Parce que s'il ne la fait jamais, eh bien, il n'aura jamais l'habitude de la faire, il ne sera jamais pratiqué non plus à la faire. Et également pour que la récompense lui soit écrite, et également pour la personne qui est son wali, qui est son père ou son responsable, son tuteur. Hein, cette personne-là aura également la récompense à cause de la preuve générale du fait que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Suratul An'am, le verset 16, celui qui vient avec une bonne chose, une bonne action, alors il aura 10 récompenses, yani 10, 10 récompenses pareilles. Donc le cheikh il dit wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam lamma rafa'at ilayhi imra'atun sabiyan qalat ali hadha hajj qala na'am walaki ajr. Ça c'est un hadith rapporté par Ibn Abbas, selon Ibn Abbas rapporté par l'imam Muslim, qui dit que il y a une femme qui, le professeur Hassan parlait du hajj ou du umrah si je me souviens bien, et qu'est-ce qui est arrivé, c'est que cette femme elle a soulevé un enfant dans les airs, un enfant, et elle lui a dit ya Rasulullah, est-ce que ce petit là est-ce qu'il a un hajj, hein, est-ce qu'il peut faire le hajj? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui, et tu auras la récompense. Donc alhamdulillah, le cheikh dit فَيُعَلِّمُهُ وَلِيُّهُ الصَّلَاةِ وَالطَّهَارَ لَهَا. Donc son wali, le responsable, doit apprendre à cet enfant là comment faire la salat et comment se purifier pour cette salat. وَيَجِبُ عَلَى الْوَلِي أَنْ يَضْرِبَ الصَّغِيرَ إِذَا تَهَاوَنَ بِالصَّلَاةِ وَقَدْ بَلَغَ 10 سِنِينَ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم. Donc le cheikh il explique, il dit qu'il est obligatoire pour le tuteur ou le père ou le responsable de l'enfant de frapper ses enfants ou de les corriger et de les frapper lorsqu'ils ont négligé la prière et qu'ils ont atteint l'âge de 10 ans. Donc à partir de l'âge de 10 ans, là, s'ils ne prient pas ou qu'ils négligent la salat, il faut commencer à les punir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ordonnez à vos enfants de faire la prière à partir de l'âge de 7 ans. Et frappez-les s'ils la négligent à partir de l'âge de 10 ans. Donc frappez-les vers l'âge de 10 ans. Et séparer les garçons et les filles dans les lits à partir de cet âge-là, à partir de 10 ans, séparer les garçons et les filles dans les lits. Et à l'époque actuelle, yani, parfois même, ça peut être nécessaire de les séparer même avant l'âge de 10 ans, à cause de la façade yani, dans la société, et puis en tout cas. Donc le cheikh il dit que l'imam Ahmed a rapporté ce hadith ainsi qu'Abu Dawud et At-Tirmidhi, et c'est un hadith rapporté par Amr ibn Shu'ayb selon son père, selon son grand-père, et At-Tirmidhi l'a rapporté selon Ar-Rabi' ibn Samura, selon son père, selon son grand-père, de même que l'imam ibn Khuzayma également il l'a rapporté, et l'imam Al-Hakim également. Ok, donc ça c'est pour cette règle-là, alhamdoulilah, et donc il ne faut pas négliger, yani, pour les enfants, c'est très important, même de les réveiller pour la salat du fajr, hein, on ne les laisse pas dormir, on les réveille pour qu'ils s'habituent, hein, de faire la prière à temps. Et il y a des parents, des fois, ils font coucher les enfants très tôt, hein, même les jours d'école, ils font dormir des fois avant la prière de Isha. Et ça, c'est, il faut donc, si on les fait dormir avant cette heure-là, il manque la salat, donc c'est pas bon, yani. Le cheikh dit voilà, il y a juz ta'khir al-salat an waqtiha, wa qala Allah ta'ala inna salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Le cheikh il dit ce n'est pas permis de retarder une prière et de la faire sortir de son temps. Allah subhanahu wa ta'ala il dit que la salat c'est pour les mu'minines quelque chose qui est prescrit dans des temps, hein, spécifique. Et ça, c'est le verset 103 dans Surat al-Nisa qu'on a mentionné tout à l'heure. Le cheikh, il dit, « Ey, mafroudatan fi awqatin mu'ayyana, la yajuzu ta'khiruha anha, illa liman yuridu jam'aha ma'a ma ba'daha, ma ba'daha jam'a ta'khirin. إذا كانت مما يجمع وكان ممن يباح لهم الجمع. Donc le cheikh il dit, c'est-à-dire que c'est une obligation qui pour des périodes de temps spécifiques durant la journée, et il n'est pas permis à quelqu'un de retarder ces prières là de retarder la prière de son temps, excepté pour la personne qui veut par exemple les réunir ensemble, si c'est le fait qu'il veut les réunir en les retardant, comme par exemple la prière de Dhuhr et l'Asr, il les fait ensemble mais dans le temps de Asr, ou bien la prière de Maghrib et Isha, il retarde jusqu'à l'Isha, il les fait ensemble. Ça, c'est, dans ce cas-là, c'est correct. Mais il faut que ce soit deux prières qu'on a le droit de réunir ensemble. Par exemple, si ce serait Al-Asr et Al-Maghrib, c'est pas permis. Parce que c'est deux prières qu'on ne peut pas réunir ensemble. Ou bien si c'était Al-Isha et Al-Subh, ça également, c'est deux prières qu'on ne peut pas réunir ensemble. Donc il faut que ce soit Dhuhr et Al-Asr, ou bien Al-Maghrib et Al-Isha seulement. Seulement ces deux-là. Et il faut que ce soit pour une personne qui a le droit de les réunir, comme par exemple le voyageur ou quelqu'un qui a une excuse, en général. C'est pas quelque chose que quelqu'un doit prendre l'habitude de réunir ses prières tout le temps comme ça. Et donc il faut essayer de trouver toujours un moyen d'établir sa prière durant son temps, malgré les complications et malgré les difficultés que le fait d'habiter dans un pays de kufr. Parfois, à cause du travail ou toutes sortes de choses comme ça, les études ou d'autres raisons, on a toujours des complications et des difficultés d'établir les prières dans leur temps. Donc, il faut, à tout prix, trouver toujours des moyens pour être capable de toujours établir sa prière à temps et de ne jamais faire sortir les salawat en dehors de leur période de temps. Comme certains musulmans, malheureusement, qui ont des situations, malheureusement, qui font en sorte qu'ils font les cinq prières le soir d'un seul coup. Ça, c'est vraiment pas acceptable. Et c'est très dangereux, en réalité. Et les gens qui ont des problèmes avec leur travail à cause de la salat, comme ça, ou qui ont problème avec leur salat à cause de leur travail, plutôt, eh ben, ces gens-là, ils doivent demander à Allah subhanahu wa ta'ala de leur donner un travail meilleur que celui-là. Et, comme le professeur Sam a dit, من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. Celui qui laisse quelque chose ou abandonne une chose pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va lui remplacer par quelque chose de meilleur. Donc il faut toujours savoir que il faut mettre sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas dépendre pour notre risque sur ces choses-là, sur des emplois qui nous font nous éloigner des obligations de notre religion. Et également, Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui donner une sortie ou une issue de sa difficulté ou de son problème, et il va lui donner son risque, sa subsistance, من حيث لا يحتسب, c'est-à-dire il va lui donner de là où il ne s'en attend même pas. Donc c'est pour ça que quelqu'un ne doit pas essayer de dépendre uniquement sur ses moyens et sur son travail pour dire si je perds ce travail, je vais être à la rue ou j'aurai pas de nourriture ou je vais mourir de faim. Ça, c'est pas vrai. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est Ar-Razzaq, Zulquwwatil Matin. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui celui qui donne la subsistance. Et donc, mettez votre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachez que Allah subhanahu wa ta'ala va pas vous laisser tomber si vous êtes là, si vous êtes sincère. Parce que c'est le but de notre existence, c'est le but de notre création. Donc pourquoi il nous laisserait tomber alors qu'on essaie d'établir le but de notre existence et la raison pour laquelle il nous a mis dans ce monde, hein? Donc, Alhamdulillah Rabbil Alameen. Ensuite, le Cheikh il dit, أما تأخير الصلاة صلاة الليل إلى النهار أو صلاة النهار إلى الليل أو الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس فلا يجوز بحال من الأحوال لا لجنابة ولا نجاسة ولا غير ذلك بل يصليها في وقتها على حسب حاله. Donc le cheikh il insiste là-dessus encore une fois et il précise et il dit que en ce qui concerne le fait de retarder la prière de la nuit jusqu'au jour ou de retarder la prière du jour jusqu'à la nuit ou bien de retarder le fajr jusqu'après le lever du soleil, ça c'est quelque chose vraiment malheureusement beaucoup de musulmans parfois ils ont cette fitna du fait qu'ils dorment jusqu'au lever du soleil et puis ils établissent seulement la salat après le lever du soleil, ça c'est quelque chose quand même aussi qui est très très grave. Et le cheikh il dit fala yajuz bihalin min al ahwal, ce n'est pas permis dans aucun cas. La li janaba, hein, ni pour une janaba, par exemple quelqu'un pourrait dire que ah ben j'ai une janaba, c'est-à-dire j'ai eu des rapports sexuels avec ma femme et j'ai pas encore fait mon rusul et donc la prière va sortir de son temps et donc j'ai pas le temps d'aller faire mon rusul, donc je vais faire ma prière en retard. Donc le cheikh il dit ça c'est pas permis et après il dit ni pour une impureté, hein, et toute autre raison de ce genre. Il dit tu l'as pris dans son temps comme tu es dans l'état dans lequel tu es. Si tu sais que tu as manqué le temps de la prière à cause d'une impureté ou à cause d'une janaba ou des choses de ce genre, tu pries tel quel. Même si t'es pas en pureté, tu pries, ça y est, khalas, tu l'as fait et c'est ça qui est obligatoire pour toi. Tu fais ce que tu peux. Et le cheikh il va expliquer. Il dit, il donne un autre exemple ensuite. Il dit wa ba'du al-juhal qad yakun fi halati 'ilaj fi al-mustashfa 'ala sarir la yastati' an-nuzul minhu aw la yastati' taghyir thiyabihi allati 'alayha najasa أو ليس عنده تراب يتيمم به أو لا يجد ما يناوله إياه أو من يناوله إياه فيؤخر الصلاة عن وقتها ويقول أصليها فيما بعد إذا زال العذر وهذا خطأ عظيم وتضييع للصلاة أوقعه فيه الجهل وعدم السؤال. Donc le cheikh il dit que il y a certains ignorants qui lorsqu'ils sont dans une situation qu'ils se font traiter, par exemple, dans un hôpital, et qu'ils sont sur un lit, et qu'ils ne peuvent pas bouger, ne peuvent pas descendre, et qu'ils ne sont pas capables de, par exemple, changer leurs vêtements, et que sur leurs vêtements, il y a des impuretés, ou bien qu'ils n'ont pas trouvé de terre pour faire le tayammum, et qu'ils n'ont pas trouvé personne qui était capable de lui en apporter, ou des choses de ce genre. Alors il retarde la prière, il la fait sortir de son temps. Et il dit, je vais la prier par la suite lorsque j'aurai plus d'excuses, yani, ou que j'aurai un moyen de me changer ou de me purifier ou des choses de ce genre. Et le cheikh il dit que ça c'est une grave erreur et c'est une chose qui te fait perdre ta prière et que ça c'est l'ignorance qui t'a fait tomber dans ça. C'est l'ignorance et le fait que tu n'as pas posé de questions, là, tu n'as pas demandé au ulama. Parce que le cheikh dit « فالواجب على مثل هذا أن يصلي على حسب حاله في الوقت وتجزئه صلاته في هذه الحالة. » Donc le cheikh dit « l'obligation pour cette personne, hein, dans une situation pareille, c'est de prier dans l'état où il est, dans le temps, peu importe qu'il est, même s'il n'a pas fait le wudu, même s'il a des impuretés sur lui, même s'il n'a pas fait le tayammum, il prie dans l'état où il est, dans laquelle il est, pour ne pas faire sortir la prière en dehors de son temps. Walaw salla biduni tayammumin aw thiyabin najisa, même si tu pries sans tayammum, même si tu pries dans des vêtements impurs. Qala Allah ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala, il dit craignez Allah le plus que vous êtes capable, comme vous êtes capable. Hein, selon votre capacité. Hein, ça c'est verset 16 dans sourate At-Taghabun. Et ce verset-là, il revient dans plusieurs fatawas, plusieurs questions. Quand les ulama, on leur pose des questions, les cheikhs, les shuyukh, des fois, ils répondent « Fattakullaha mastata'tum »« Craignez Allah comme vous en êtes capable, selon votre capacité. » Parce que « La yukallifullahu nafsan illa wus'aha » Allah subhanahu wa ta'ala, il ne donne pas à quelqu'un de faire quelque chose ou lui ordonne pas de faire quelque chose, excepté s'il est capable de le faire. Hein? Donc le cheikh dit hatta law salla ila ghayr al-qibla idha kana la yastati'u istiqbal al-qibla fa salatuhu sahiha. Hein? Donc si par exemple quelqu'un, tu n'es pas capable de te tourner vers la qibla, hein? Tu n'es pas capable de prier vers la qibla, tu pries dans la direction que tu es, même si c'est pas la bonne direction, et ta prière sera acceptée. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas été capable de prier dans la bonne direction. Et ça, c'est dans les cas où quelqu'un vraiment n'a pas de moyens, là, il peut rien faire d'autre. Si je donne un exemple, si comme un frère m'avait donné un exemple, je ne sais pas si c'était quelque chose qui lui est arrivé ou non, mais quelqu'un qui était dans un endroit, je ne sais pas s'il était en prison ou quelque chose comme ça, et on l'a mis dans une cellule, et puis il y avait des impuretés sur ses vêtements, puis il n'y avait pas d'eau pour faire l'eau d'eau et rien pour faire le tayammum non plus. Et donc on avait posé la question à des jours comme ça à propos de qu'est-ce que cette personne-là doit faire, et il doit, bien entendu, comme le cheikh a expliqué, il prie dans la situation où il est. Et si par exemple les koufars ou les non-musulmans l'ont enfermé dans une pièce et lui ont enlevé tous ses vêtements, il est nu, hein, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il prie ou est-ce qu'il prie pas? On sait que de couvrir al-awra, c'est une condition dans la salat. Donc qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il laisse la prière? Il dit « Ah, je suis nu, je ne peux pas prier ». Non, il prie dans l'état où il est. Même s'il est nu, il prie parce qu'il n'a pas le choix. Hein? Donc c'est un exemple. Le cheikh il dit ensuite « وَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ هَوْنًا أَوْ كَسَلًا مِنْ غَيْرِ جَحْدٍ لِوُجُوبِهَا كَفَرَ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ قَوْلَيْ الْعُلَمَاء. » Le cheikh il dit que celui qui a abandonné la prière par négligence ou par paresse, sans avoir nié son obligation, il a mécru selon la position qui est correcte parmi les positions des ulama. Et le cheikh dit bal huwa as-sawab alladhi tadullu alayhi al-adilla ka hadith bayna ar-rajul wa bayna ash-shirk wa al-kufr tarku as-salah rawahu Muslim wa ghayrihi min al-adilla. Donc le cheikh dit que ça c'est la position correcte selon les preuves qui ont été mentionnées, comme par exemple le hadith entre l'homme et entre le shirk et le kufr, il y a le fait d'abandonner la salat. Et ça, c'est rapporté par lui-même Muslim, selon Jabir ibn Abdullah. Et na'am wa ghayrihi min al-adillah. Ça, c'est la position de Sheikh Al-Fawzan. Et, bien entendu, on a déjà discuté qu'il y a une différence d'opinion là-dessus. Et que, d'autres ulama ont amené des preuves pour montrer que la personne n'est pas kafir. Mais, comme par exemple Ibn Qudama, qui est également un Hanbali, parmi les grands ulama, il a fait le tarjih dans son livre Al-Mughni, que la personne qui a abandonné la salat par paresse ou par négligence, eh ben, il n'est pas kafir. Et il a dit que ces hadiths-là qui mentionnent le fait de distinguer entre le kufr et le shirk, ça c'est seulement pour faire comprendre la gravité et le danger d'abandonner la salat, et que c'est quelque chose qui te fait ressembler au kuffar, et c'est quelque chose qui t'amène à faire un kuffar, et il le catégorise parmi les formes de kuffar amali et non pas les kuffar i'tiqadi, excepté si la personne rejette l'obligation de la prière. Alors si quelqu'un rejette l'obligation de la prière avec connaissance, il est kafir même s'il l'a fait, jusqu'à ce qu'il ait reconnu son obligation. Donc le cheikh il dit qu'il y a beaucoup d'autres preuves, mais on ne va pas rentrer dans les détails de cette question. Le cheikh il dit par la suite وَيَنْبَغِي الْإِشَاعَ عَنْ تَارِكِهَا بِتَارِكِهَا لِتُفْضَحْ حَتَّى يُصَلِّ. Donc il dit c'est obligatoire de faire savoir aux gens, hein, de mentionner, de faire connaître qu'une personne qui abandonne la prière, il l'a abandonnée, pour qu'il soit démasqué, hein, pour qu'il soit humilié, disons, et jusqu'à ce qu'il soit forcé de la ou poussé à la faire. Comme si il y a des gens qui prient pas, et il y en a, si par exemple tu es au courant qu'une une personne prie pas, eh ben de le faire savoir aux gens pour que justement les gens sachent sa réalité de cette personne, et comme ça la personne va être peut-être poussée même à la faire, parce que souvent les gens vont lui dire, là, ils vont lui faire une nasiha, vont lui donner le bon conseil, etc. Et le cheikh il dit voilà, il y a un bari, assalamu alayhi. Il dit il ne faut pas lui faire le salam. Le cheikh il dit il ne faut pas lui faire le salam. Voilà, ijabatu da'wati, il ne faut pas non plus répondre à son invitation, hatta yatou wa yuqima as-salat, jusqu'à ce qu'il se repente et qu'il établisse la salat. Lianna as-salata 'umud ad-din, parce que la salat c'est le pilier, hein, le pilier de la religion. Wa hiya al-fariqa bayna al-muslimi wal-kafir. Et c'est la distinction entre le musulman, le musulman et le kafir. C'est vrai. Si on est dans une pièce et que on dit tout le monde est mélangé, les musulmans et les koufars, et que là c'est l'heure de la prière et que quelqu'un fait l'adhan, donc on va tout de suite, on va voir que les mu'minines, les musulmans, ils vont se lever et les autres vont rester assis. Si quelqu'un reste assis, on a des doutes sur sa foi, yani, on a des doutes sur le fait est-ce qu'il est musulman ou non, hein, excepté s'il a une excuse valable comme on a expliqué. Donc c'est une distinction entre les mu'minines et les koufars. Comment quelqu'un qui entend l'adhan et qui voit les gens prier et puis qui reste assis comme si lui il l'a pas entendu et comme si yani ça s'applique pas à lui. Yani, donc ça c'est une explication, yani. Et donc en même temps aussi, quand on mentionne aux gens le fait de l'importance de la prière, c'est pas nécessaire de leur expliquer le khilaf à chaque fois, que c'est pas nécessairement kafir ou c'est pas nécessairement etc. On peut juste lui mentionner le hadith tel quel pour leur faire peur, pour leur faire comprendre la gravité de qu'est-ce qu'ils font, pour qu'ils reviennent, parce que ça c'est très dangereux, yani, c'est très grave. Et même les ulama ils ont dit que la personne qui prie pas, hein, il doit être amené, comme on a dit au début, à se repentir et à établir sa salat. Et les ulama ont dit, tous les ulama ils sont tous d'accord qu'il doit être exécuté. Et ça, bien entendu, c'est dans un État musulman, dans un pays musulman, avec un dirigeant. Et c'est le dirigeant qui établit cette punition-là, et non pas les citoyens. Et c'est le responsable, le dirigeant ou son le juge ou quelqu'un qui a l'autorité légale de faire appliquer ces punitions-là. Naam. Ensuite, le cheikh il dit. Donc فمهما عمل العبد من الاعمال فانه لا ينفعه ما دام مضيعا للصلاه. Peu importe qu'est-ce que les actions qu'une personne peut faire de bien, ça ne lui sert à rien tant qu'il n'a pas établi la salat, tant qu'il a abandonné l'obligation de la salat. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala son pardon et son indulgence. Et yani subhanallah, le fait que le cheikh il a dit qu'on ne répond pas à son invitation, puis qu'on ne lui fait pas le salam, etc. Hein, ça c'est parce que, ça c'est après avoir donné le nasiha, après avoir parlé, après avoir expliqué tout. Hein, et on fait preuve de patience et de bonté, de douceur avec la personne pour l'amener au bien. On lui explique. Et en même temps, si la personne n'écoute pas par la suite, eh bien là, on applique des règles comme ça sur des gens de cette catégorie-là. Et c'est pas permis pour les musulmans, yani, lorsqu'ils savent qu'une personne est une personne qui n'a pas abandonné qui n'a pas établi la salat, et qu'ils savent son état, de faire semblant de rien, puis d'agir bien avec la personne, puis de rire avec la personne, puis de faire comme si je vais agir comme ça avec lui pour qu'il se rapproche, et puis pour le rapprocher, puis tout ça, pour soi-disant, comme certains peuvent croire que ils utilisent al-hikmah, et peut-être même que ils vont même pas faire l'inkar avec leur cœur. Hein, ils sont avec eux comme s'ils agissent avec eux, comme s'ils agissent avec un mu'min, un bon musulman, un bon pratiquant, quelqu'un qui établisse le salawat, qui suit l'islam. Il faut savoir, yani, quand est-ce qu'il faut faire preuve de dureté avec des gens pareils, et quand est-ce qu'il faut faire preuve de douceur, quand est-ce qu'il faut utiliser des moyens comme ceux-là. Yani, le fait d'être avec eux, de rire avec eux, de manger avec eux, d'être avec eux comme si rien n'était, comme si tout était normal, c'est comme si on est d'accord avec le fait qu'ils ont abandonné la salat. Donc c'est, au lieu de les encourager à faire la salat, on les encourage justement à continuer à faire ce qu'ils font. Ensuite le cheikh qu'est-ce qu'il dit? Il dit babun fi ahkam al-adhan wa al-iqama. Il dit un chapitre au sujet des règles du adhan et de al-iqama, c'est-à-dire l'établissement, l'heure de l'établissement de la prière et les règles qui ont rapport avec adhan, l'appel à la prière. Le cheikh il dit: لما كانت الصلوات الخمس مؤقتة بأوقات معينة لا يجوز فعلها قبل دخول تلك الأوقات وكان الكثير من الناس لا يعرف دخول الوقت أو قد يكون مشغولا لا يتنبه لدخوله شرع أو شرع الله الأذان للصلاة إعلاما بدخول وقتها. Donc le cheikh il explique, il dit que étant donné que les cinq prières ont des temps spécifiques bien connus et qu'il n'est pas permis de prier ou de faire une prière avant l'entrée de son temps, hein, si quelqu'un prie une prière avant l'entrée de son temps, cette prière-là n'a pas de valeur ou ne sera pas acceptée. Donc c'est important de connaître le temps. Et le cheikh il dit, beaucoup de gens ne connaissent pas exactement quand est-ce que les heures rentrent, quand est-ce que le temps de la prière commence, et ils ne savent, et des fois ils sont comme occupés, donc ils n'arrivent pas à, ils portent pas attention est-ce que le temps de la prière est entré ou non à cause de leurs occupations. Donc le cheikh il dit que à cause de ça, à cause de ces raisons là Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré l'appel à la prière, à l'adhan, hein, pour faire connaître aux gens le temps de l'entrée de la prière. Ensuite le cheikh il dit وَقَدْ شُرِعَ الْأَذَانُ فِي السُنَّةِ فِي السَّنَةِ الْأُولَى pardon فِي السَّنَةِ الْأُولَى مِنَ الْهِجْرَةِ أو لِلْهِجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ وَسَبَبُ مَشْرُوعِيَتِهِ أَنَّهُ لَمَّا عَصُرَ مَعْرِفَةُ الْأَوْقَاتِ عَلَيْهِمْ تَشَاوَرُوا فِي نَصْبِ عَلَامَةٍ لَهَا فأري عبد الله بن زيد هذا الأذان في المنام وأقره الوحي. Donc le cheikh il expliquait, il dit que l'adhan a été légiféré durant la première année du Hijra, après l'immigration de Mecca à Medina par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après le cheikh il dit la cause de sa législation ou le fait qu'il a été ordonné ou commandé, c'est que à une certaine époque ou à ce moment là ça a été un peu difficile pour les gens de reconnaître ou de connaître les périodes de temps différents de la prière, les différents temps de la prière. Donc ils se sont consultés entre eux pour essayer d'établir un signe ou une règle en ce qui concerne l'appel à la prière. Hein, ils ont vu les chrétiens utiliser des cloches, ils ont vu que les juifs utilisaient un clairon. Donc ils ont dit, bon, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser nous pour appeler à la prière? Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait voir un des sahaba, et également je crois même à Bilal, mais à un autre aussi qui s'appelle Abdullah ibn Zayd, de faire l'adhan. Hein, ils ont vu ça dans leur rêve. Hein, et la révélation par la suite l'a confirmé, cette règle-là. Et ça c'est rapporté par l'imam Abu Dawud et Tirmidhi et Ibn Majah, et à la base il est dans Sahih Muslim selon Ibn Umar. Donc ça a été confirmé par la suite par la révélation et par le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a approuvé. Et en même temps الله سبحانه وتعالى الذي وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقال تعالى وإذا ناديتم إذا ناديتم إلى الصلاة c'est سورة المائدة verset 58. Donc c'est à dire oh les croyants, lorsque on vous appelle pour la prière du jour du Jumu'ah, du vendredi, alors précipitez-vous vers le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et abandonnez le commerce, laissez de côté le commerce. C'est le verset 9 dans surat al-Jumu'ah et l'autre verset qui dit et lorsque vous êtes appelé pour la salah ou vers la salah, verset 58 dans al-Ma'idah. Donc ça c'est des preuves dans la charia qui montrent qu'il y a effectivement un appel à la prière. Et j'aimerais passer une petite note juste en passant là-dessus sur une shubha qui est donnée souvent par les gens de bid'a comme les soufis, hein, qui essaient d'utiliser cette anecdote ou cette histoire qui s'est produite au sujet de la légifération ou la législation du adhan, du fait qu'un sahabi l'avait vu dans un rêve, hein, avant qu'il soit légiféré. Donc certains parmi les soufis, hein, utilisent cet exemple pour essayer de justifier qu'il y a des bid'a qui sont hasana, qui sont bonnes, Parce qu'il se disait, regardez, un sahabi a vu un rêve et il est venu et puis il l'a fait. Et après, le prophète Hassan l'a approuvé. Donc, ça veut dire que il y a des choses qu'on peut inventer ou qu'on peut faire qui sont pas dans la révélation et puis que on peut par la suite, yani ça peut être des bonnes choses. D'accord? Et donc, ils utilisent cet exemple-là et il y a beaucoup d'autres exemples comme ça de choses que certains sahaba avaient fait sans la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis par la suite le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a su et puis il l'a affirmé ou l'a approuvé. Et puis la réponse à cette shubha, en réalité c'est très facile et c'est très simple, hein, c'est que en réalité c'est que les sahaba ont fait ces choses-là durant la révélation, c'est-à-dire durant la période où le Coran était révélé. Donc lorsqu'ils avaient fait ces choses-là et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'apprenait, certaines fois ils pouvaient approuver certaines de ces actions-là, certaines de ces paroles que les sahaba avaient fait. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'approuve ou l'accepte, dans ce cas-là, ça fait partie de la sunna, ça fait partie de la révélation, donc c'est approuvé, ça fait partie de l'islam. Mais dans d'autres occasions, il a entendu de sahaba qui ont fait des choses et il les a réprimandés, il les a critiqués. Et dans ce cas-là, ça faisait pas partie de la révélation et de la charia. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé un verset qui dit: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Ça veut dire aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion. Hein? Donc à partir de ce moment que la révélation ou la religion est complète, c'est plus permis par la suite à personne, hein, de venir rajouter quoi que ce soit dans la religion. Et on n'a pas entendu d'exemple où quoi que ce soit allait être accepté dans la religion après la terminaison de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la fin de la révélation. Donc tout ce qui vient par la suite qui n'a pas été accepté ou ordonné ou commandé ou recommandé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui n'a pas été fait par les sahaba, alors par la suite tout ça se sera rejeté. Et également on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de suivre la sunna des khulafa ar-rashidin. Donc ça fait partie également de suivre l'islam, hein. Donc alhamdoulillah, mais tous ceux qui viennent après comme les chouyours soufis, hein, qui viennent avec des rêves, avec toutes sortes d'histoires et puis qui disent: ah, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu dans mon rêve, ou bien il est venu en vrai, en personne, en plein jour, hein, j'étais réveillé et puis il est venu, il m'a parlé, il m'a donné des nouvelles explications, des nouvelles formes de zikr, des nouvelles formes d'adoration que personne connaissait. Donc tout ça là, c'est le dalal. En réalité, ça vient du shaitan et ça vient pas de rien qui a rapport avec l'islam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ensuite, le cheikh il dit: "Wa kullun min al-adhan wal-iqama lahuma alfaz makhsusa min al-dhikr wa huwa kalam jami' li'aqidati al-iman." فأولها التكبير وهو إجلال الله عز وجل، ثم إثبات الوحدانية لله عز وجل، وإثبات الرسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالشهادتين، ثم الدعاء إلى الصلاة التي هي عمود الإسلام، والدعاء إلى الفلاح وهو الفوز والبقاء في النعيم المقيم، ثم يختمه بتكبير الله وإجلاله وكلمة الإخلاص التي هي من أفضل الذكر وأجله، التي لو وزنت بالسماوات وعمرهن غير الله والأراضين السبع وعمرهن لرجحت بهن لعظمها وفضلها. Donc le cheikh il dit quoi? Il dit le adhan et l'iqama, tous les deux ont des termes, ont des phrases spécifiques et qui sont des rappels d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce sont des paroles qui réunissent les principes de l'aqida et de la foi. Les deux premières, au premier, qu'est-ce qu'on fait? On mentionne takbir, hein, on fait Allahu Akbar. Et ça, ça fait partie d'exalter Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, on établit son unicité, hein. On dit la ilaha illallah. Ensuite, on établit que le témoignage que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est un des prophètes et messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ashhadu anna Muhammad rasulullah. Ensuite, on fait un dua on appelle à la prière, c'est-à-dire on appelle les gens à la prière. Parce qu'un doua, c'est-à-dire appeler. Hayya ala salat. Donc ça c'est le pilier de l'islam. Ensuite on appelle au succès. Hayya ala al-falah. C'est le succès et le fait qu'on reste continuellement dans la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on termine ça par le takbir et la parole de l'ikhlas, c'est-à-dire la ilaha illallah. Et ça, c'est la plus grande forme de dhikr, la plus grande forme de dhikr et la plus importante parmi les formes de dhikr. Et si on devait prendre le poids des cieux et des sept terres et qu'on devrait les peser pour savoir leur poids et qu'on prenait la ilaha illallah à côté pour le comparer, le poids de la ilaha illallah et le poids de tout ce qui existe, les cieux, les sept cieux et tout ce qu'il y a dedans, et les sept terres et tout ce qui est dessus, et qu'on le met à comparer à la ilaha illallah, eh bien la ilaha illallah sera plus lourd dans la balance que ces choses-là, ces créations-là. Ensuite, le shaykh dit, qad jat أحاديث في فضل الأذان وأن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة. Ça c'est rapporté par l'imam Muslim dans le hadith de Muawiya qui dit que au jugement dernier, les gens qui auront les plus longs coups seront les gens qui faisaient l'adhan. Ça montre le mérite du adhan. Ça c'est rapporté par l'imam Muslim selon Muawiyah. Un autre hadith qui dit الأذان والإقامة فرض كفاية وفرض الكفاية ما يلزم جميع المسلمين إقامته فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وهما من شعائر الإسلام الظاهرة وهما مشروعان في حق الرجال حضرا وسفرا للصلوات الخمس. Le cheikh dit quoi? Il dit que l'adhan et l'iqama, ça fait partie des obligations qui sont parmi les choses qui sont fard kifaya. C'est-à-dire, s'il y a un nombre suffisant de musulmans qui l'ont établi, alors c'est plus obligatoire pour le reste. Mais si tous les autres, si tout le monde le laisse, s'il n'y a pas un nombre suffisant de musulmans qui le font, on peut dire que tout le monde est compris dans le péché. Jusqu'à ce qu'il y ait un nombre suffisant de gens qui ont établi al-adhan. Et le cheikh dit par la suite, wahuma, et ça fait partie des plus grands, signe de l'islam, de l'apparence de l'islam dans un endroit ou dans un pays. Lorsqu'on entend l'adhan, c'est un signe clair que ce pays-là ou cet endroit-là est un pays musulman. Et ensuite le cheikh il dit فَإِذَا قَامَ وَهُمَا مَشْرُعَانَ. Ces deux choses qui ont été iqama et l'adhan qui ont été légiférées pour les hommes. C'est obligatoire pour les hommes, qu'il soit en voyage ou qu'il soit résident dans une ville, qu'il soit c'est-à-dire ils sont pas en voyage et c'est établi, ils doivent l'établir pour les cinq prières. Et le cheikh dit wa yuqatal ahlu baladin tarakuhuma li'annahuma min sha'a'ir al-islam adh-dhahira fala yajuzu ta'tiluhuma. Donc le cheikh dit c'est qu'il y a un pays qui les abandonne tous les deux, les Qamawal, l'Adhan. Dans ce cas-là, il faut les combattre jusqu'à ce qu'ils commencent à l'établir, parce que ça fait partie des signes apparents de l'islam. Et il n'est pas donc permis de les abandonner. Et il y a un hadith du professeur Al-Salam qui dit que parfois quand il arrivait pour attaquer une ville, ils attendaient pour la prière de Subh. Et s'ils entendaient le adhan, alors ils n'attaquaient pas. Donc c'est un exemple. Après le shaykh dit والصفات المعتبرة في المؤذن أن يكون صيتا لأنه أبلغ في الإعلام أمينا وأمينا لأنه مؤتمن يعتبر آذانه في دخول وقت الصلاة والصيام والإفطار ويكون عالما بالوقت ليؤذن في أوله. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il explique? Il dit, c'est quoi les caractéristiques qui doivent se retrouver en la personne qui fait l'azan? Qu'est-ce qu'il faut que cette personne possède? Il faut qu'elle ait une voix qui est portante, hein, doit avoir une voix forte, parce que ça va faire en sorte que les gens vont être au courant de disons que c'est l'heure de la prière. Il doit être fiable, ça doit être quelqu'un de fiable. Pourquoi? Parce qu'on dépend sur lui, ou on revient à lui sur le fait de connaître l'entrée de la prière. Si quelqu'un fait pas l'adhan à temps, en avance ou trop en retard, eh bien c'est ça cause des ennuis ou des problèmes. Pourquoi? Parce que on dépend sur ça souvent pour les questions de la prière, savoir que la prière est entrée, ou bien pour le jeûne et pour l'iftar, savoir quand est-ce qu'on peut plus manger, quand est-ce qu'on peut manger, des choses de ce genre. Donc la personne doit être fiable, hein. Et également, il faut que la personne soit parmi ceux qui connaissent les différents temps de l'entrée des prières, pour qu'il puisse faire justement la prière au début de son temps. D'accord? Et na'am. Donc le cheikh dit wal adhan khamsa asharata jumlatan. La prière c'est 15 phrases. كما كان بلال يؤذن به بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما parce que Bilal il faisait l'adhan en présence du prophète صلى الله عليه وسلم de cette façon là tout le temps. ويستحب أن يتمهل بألفاظ الأذان من غير تمطيط ولا مد مفرط ويقف على كل جملة منه. Donc il doit prendre son temps, yani, quand il fait l'adhan, pas se précipiter, le dire vite. Il prolonge un petit peu, hein, pour que ce soit plus long, mais sans exagérer non plus. Donc il n'exagère pas ni en le prolongeant trop, comme certains qui commencent à faire l'adhan puis ils partent en solo, comme on dit, hein, Allah musta'an, commencent à faire comme s'ils sont des chanteurs. Alors ils commencent à sauter et ils montent le ton, puis ils descendent, ils montent, on dirait que ça va jamais finir. Ça c'est quand ces gens-là exagèrent de cette façon-là, ils sortent de la sunna. Et il y en a d'autres qui veulent faire le adhan un peu trop court, hein, et donc ils vont tout de suite juste faire le adhan rapidement. Et puis ça aussi c'est un autre exemple qui est contraire à la sunna également. Donc c'est entre les deux, il faut pas exagérer trop et il faut pas non plus diminuer d'une façon à négliger également dans l'importance du adhan. Et le cheikh dit qu'il doit arrêter à chaque phrase. ويستحب أن يستقبل القبلة على الأذان. Et c'est recommandé de se tourner vers la qibla durant lorsqu'on fait l'adhan. ويجعل أصبعيه في أذنيه لأنه أرفع للصوت. Donc le cheikh il dit quoi? Il dit que c'est recommandé de mettre également les deux doigts dans les oreilles, car ça, c'est quelque chose qui t'aide à élever ta voix, à faire ton adhan plus fort. Et il dit ويلتفت يمينا عند قوله حي على الصلاة وشمالا عند قوله حي على الفلاح. Il dit, il se tourne vers la droite lorsqu'il dit Hayya ala salat, c'est-à-dire venez vers la prière, et il se tourne vers la gauche lorsqu'il dit Hayya ala falah. J'ai dit, est-ce que j'ai dit salat la première? Hayya ala salat, il se tourne à droite. Hayya ala falah, il se tourne vers la gauche. Wa yaqulu ba'da Hayya ala falah al-thaniya min adhan al-fajr khassatan الصلاه خير من النوم مره لامره صلى الله عليه وسلم بذلك. Donc le cheikh il explique ici, il dit que après avoir dit hayya ala al falah, il dit après avoir dit deux fois hayya ala al falah dans le adhan de fajr en particulier, il dit الصلاه خير من النوم, il le dit deux fois. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commandé de Tirsa dans Adhan al-Fajr. Et ça c'est rapporté selon Muhammad ibn Abdul Malik ibn Abi Mahzoura an abihi an jaddi, selon son père et selon son grand-père, selon son père et son grand-père, selon son père, selon son grand-père. Et Abu Daoud l'a rapporté, et An-Nasa'i, et également il est rapporté selon Bilal dans At-Tirmidhi, et également par Ibn Majah, d'accord. Et il est dans Bulugh al-Maram, je crois. Il est dans Bulugh al-Maram. Et je pense qu'il y a une différence d'opinion en ce qui concerne le fait que est-ce que la personne doit dire As-salatu khayrun min an-nawm uniquement dans le premier adhan de Fajr, lorsque yani avant, c'est-à-dire avant l'entrée de l'aube, c'est-à-dire il y a un adhan qui est fait pour que les gens se lèvent pour faire qiyam al-layl, et par la suite lorsque le temps de salat Fajr commence, là on fait un autre adhan. Donc, l'explication que j'ai entendue, c'est que as-salatu khayrun min an-nawm, c'était la salat qu'on on rajoute ça dans le premier adhan qu'on fait pour que les gens se lèvent pour prier la nuit avant le temps de l'aube. Wallahu a'lamu. Donc, après le cheikh dit annahu waqtun yanamu an-nasu fihi ghaliban, parce que c'est un temps où la plupart des gens ils dorment à ce moment-là. Donc il dit وَلَا يَجُوزُ أَوْ وَلَا تَجُوزُ زِيَادَةُ عَلَى أَلْفَاظِ الْأَذَانِ بِأَذْكَارٍ أُخْرَى قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ. Il dit c'est pas permis de rajouter des choses dans l'adhan, dans les mots du adhan, ni avant ni après. Parce que vous allez dans certains pays musulmans, Égypte ou d'autres, et vous allez voir que les mouadzinines commencent à dire d'autres choses que le adhan avant et après. Ils vont mentionner par exemple As-salat wa salam ala rasulillah, puis ils vont faire toutes sortes de dhikr ou de dua ou des choses comme ça, et tu les entends parler comme faire toutes sortes de glorifications, et ils disent nous on fait du bien, yani, on n'a pas une mauvaise intention, puis quelque chose de bien, les gens vont entendre As-salat wa salam ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et comme la réponse pour ça on le connaît, c'est la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Toute bid'a est une innovation, hein, est un égarement. Toute bid'a est un égarement. Et tout égarement est dans le feu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pas dit toute bid'a qui est fait avec une mauvaise intention. Il n'a pas spécifié que l'intention doit être bonne ou mauvaise. Il a seulement dit toutes les bid'a sont des égarements. Donc ça ne change pas le fait que la chose soit faite avec une bonne intention, ça ne change pas que c'est une bid'a, d'accord. Et comme on ne peut pas rajouter une raka à la prière, hein, et on ne peut pas non plus rajouter rien dans le azan, ni avant ni après, la même chose. Donc alhamdulillah rabbil alamin, ça c'est clair. Et le professeur a dit man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad. Celui qui fait quelque chose qui ne fait pas partie de notre religion, eh bien, elle ne sera pas acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle sera rejetée. Hein? Donc ça, c'est clair. Il y a des gens, ils ont la tête dure, Allah musta'an, ils veulent juste faire qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a pas enseigné de faire. C'est comme s'ils lisent qu'est-ce qui est écrit dans le Coran et dans la Sunna, et puis ils disent, on va faire le contraire de tout ce que tu as dit, ya Rasulallah. Tout ce que tu as dit de ne pas faire, on va le faire, et tout ce que tu as dit de faire, on ne va pas le faire. Donc, Allah musta'an, qu'est-ce qu'on peut faire avec des gens comme ça? Qu'Allah les guide. Après le cheikh il dit نعم يرفع بها نعم on a lu ça déjà. فكل ما يفعل نعم, il dit que ça fait partie des bid'a. يرفع بها صوته لان ذلك من البدع المحدثه. فكل ما يفعل غير الاذان الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بدعه. Il dit comme par exemple, il dit tout ce que les gens rajoutent dans l'adhan qui n'est pas rapporté de façon authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors c'est une bid'a, une innovation. Et comme par exemple les chiites qui rajoutent Ali, ils rajoutent Ali dans l'adhan, et comme certains soufis ou d'autres dans les pays musulmans, comme j'ai dit, qui rajoutent toutes sortes de glorifications, comme le cheikh dit qu'est tasbih والنشيد والدعاء والصلاة والسلام على رسول على الرسول صلى الله عليه وسلم جهرا قبل الأذان أو بعده, فكل ذلك محدث مبتدع. يحرم فعله ويجب إنكاره على من فعله. Donc le cheikh il dit que tout ça, le fait de faire des tasbih, des glorifications, ou de faire des nashid, il y en a qui chantent des petites nashid là, des petites chansons pour yani réveiller les gens, ou bien pour parler aux gens. Yani. Il y a des pays où même ils font entendre le Coran dans les micros yani, avant la prière. Il y a beaucoup d'autres formes aussi de bida comme ça, comme en Jordanie par exemple, en Amstein, quand je suis allé là-bas, ils ont un azan qui est émis par un signal radio dans toutes les mosquées en même temps, le même signal radio, et c'est un enregistrement qui fait l'azan pour toutes les mosquées en même temps. Donc ça aussi, ça fait partie des bida, yani. Et également, comme le cheikh il dit, le fait de faire la salat et la salat wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam à haute voix avant ou après l'adhan, ça aussi ça fait pas partie du adhan, et donc tout ça c'est innovation et c'est interdit de le faire, et c'est obligatoire de dénoncer ou de, c'est-à-dire de dire à la personne qui le fait que ce qu'il fait c'est pas bon. Non. Après le cheikh il explique et il dit wa yujzi'u al-adhan qabla al-waqt wa la yujzi'u al-adhan qabla al-waqt لأنه شرع للإعلام بدخوله فلا يحصل به المقصود. C'est pas permis. Il dit ça compte pas si tu fais l'adhan avant que le temps soit entré, ça compte pas, parce que on a établi le adhan pour faire savoir aux gens le temps de l'entrée de la prière. Et donc si tu le fais avant, eh ben t'as pas établi le but pour lequel l'adhan avait été établi. لأن ولأن فيه تغريرا تغريرا لمن يسمعه. Et c'est une façon, en même temps ça trompe la personne qui l'entend, parce qu'elle va croire que le temps est rentré. إلا أذان الفجر فيجوز تقديمه قبل الصبح ليتأهب الناس لصلاة الفجر. Il dit excepté le أذان de فجر. Il dit parce que c'est permis de le faire avant pour que les gens se préparent pour le subh, hein, et pour il dit c'est permis de le faire avant l'aube pour que les gens se préparent pour la prière. Voilà, qu'il y a un bari un adhan adhanan akhar inda tulu' al-fajr, mais il faut faire un deuxième adhan comme je disais tout à l'heure lorsque l'aube entre ou lorsque se lève l'aube. ليعرف الناس دخول الوقت وحلول الصلاة والصيام. Et pour que les gens sachent que le temps de la prière est entré, et pour yani que les gens commencent à faire la prière et le jeûne. Ensuite, le cheikh dit ويسن لمن سمع المؤذن إجابته ويسن لمن سمع المؤذن إجابته بأن يقول مثل ما يقول ويقول عند حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. Donc le cheikh il explique et il dit que c'est recommandé pour la personne qui entend l'adhan de répondre, c'est-à-dire quand il entend l'adhan, quand il entend Allahu Akbar, Allahu Akbar, il répète Allahu Akbar, Allahu Akbar. Par exemple, Ashhadu an la ilaha illallah, il répète chaque phrase, et lorsqu'il entend, par exemple, Hayya ala salah, Hayya ala falah, il dit, au lieu de répéter, il dit, La hawla wa la quwwata illa billah. D'accord? Et le cheikh ensuite, il dit, Thumma yaqulu ba'dama yafruhu al-mu'adhinu, Allahumma rabbi hadhihi al-da'wati al-tamma, al-salati qa'ima, ati Muhammadan al-wasila wal-fadila, wa ba'athu maqaman mahmoudan. Donc le cheikh il dit que après avoir terminé le adhan, après que le adhan est terminé, qu'est-ce que tu dois dire? Tu dois dire oh Allah, le Seigneur de cet appel complète ou parfaite, et de cette prière qui va être établie, donne au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le al-wasila, le moyen, et al-fadila, et le mérite. Cette position, donne-lui la position de gloire au jugement dernier que tu lui as promis, que tu lui as promis. Et al-maqam al-mahmoud, c'est un statut spécifique, spéciale au jugement dernier qui va être donnée uniquement au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est le statut par lequel il sera permis d'intercéder pour les mu'minines. D'accord, ça a été rapporté dans plusieurs hadiths et expliqué. D'accord. Donc le cheikh ensuite il dit: وَيَحْرُمُ الْخُرُوجُ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْأَذَانِ بِلَا عُذْرٍ أَوْ نِيَّةِ رُجُوعٍ وَإِذَا شَرَعَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْأَذَانِ وَالْإِنْسَانُ جَالِسٌ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقُومَ بَلْ يَصْبِرُ حَتَّى يَفْرُغَ لِئَلَّا يَتَشَبَّهُ بِالشَّيْطَانِ. Donc le cheikh il dit que lorsqu'une personne a entendu l'adhan, il n'a pas le droit de sortir de la mosquée, excepté pour une excuse, ou bien avec l'intention de revenir. C'est-à-dire qu'il ne peut pas sortir, excepté s'il a une excuse valable, ou bien qu'il a l'intention de revenir. Comme par exemple, s'il était dans la mosquée avant l'adhan, et puis qu'il est sorti pour aller faire le wudu à l'extérieur de la mosquée, et puis qu'il revient par la suite. Donc ça, c'est permis. Mais s'il quitte la mosquée sans excuse après l'adhan, il a contredit la... il a fait quelque chose de haram, il a fait un péché. Et le cheikh il dit, wal mu'adhdhin, lorsqu'il a commencé son adhan et que la personne est assise, eh bien, il n'a pas à se lever. Il doit attendre jusqu'à ce que le mu'adhdhin termine de faire son adhan pour pas qu'il ressemble au shaitan. Ok, parce qu'on sait que quand le mu'adhdhin fait son adhan, le shaitan il part en courant et il fait des gaz pour essayer de pas entendre le adhan. D'accord, donc ça c'est un exemple. Le cheikh il dit ensuite: وينبغي للمسلم إذا سمع الأذان أن يتوجه إلى المسجد ويترك سائر الأعمال الدنيوية. Et le musulman, lorsqu'il entend l'adhan, doit se diriger vers la mosquée et laisser tomber toutes ses actions de la dunya. Et il mentionne un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما يتقلب فيه القلوب والأبصار. Donc ça c'est le verset 36 et 37 dans Sourate An-Nur, et on va regarder un peu dans la traduction parce que c'est un verset, mashallah, qui a une grande signification. Et le cheikh il le mentionne ici comme pour faire réaliser aux gens, pour faire voir l'importance. Il dit: dans des maisons, des mosquées, qu'Allah a permis qu'on élève, où son nom est invoqué, le glorifie en elle matin et après-midi, des hommes qui ni le commerce, ni le troc ne distrait de l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala et de l'accomplissement de la salat, de l'établissement de la salat et de l'acquittement de la zakat, et qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala et qui craignent un jour où les cœurs, dans lesquels les cœurs seront bouleversés ainsi que les regards. Donc, ça nous montre ici, le fait que, lorsqu'on entend l'adhan, on laisse tomber toutes les choses de la dunya, que ce soit le commerce ou les autres trucs, tout ça, c'est des choses, qui n'ont rien de valeur par rapport à la salat. Et le cheikh il dit: والإقامة إحدى عشرة جملة يحضرها أي يسرع فيها لأنها لإعلام الحاضرين فلا داعي للترسل فيها ويستحب أن يتولى الإقامة من تولى الأذان ولا يقيم إلا بإذن الإمام لأن الإقامة منوط ووقتها بنظر الإمام فلا تقام إلا بإشارته. Donc le cheikh il dit que الإقامة elle est composée de 11 phrases. Et il les dit rapidement, contrairement au adhan, parce que c'est pour faire connaître à ceux qui sont déjà présents. Donc il n'a pas besoin de prolonger longtemps son iqama. Et il est recommandé, c'est recommandé que la personne qui a fait le adhan, c'est cette personne-là, cette même personne qui fasse le iqama. Toutefois, Toutefois, c'est permis. Toutefois, si quelqu'un d'autre le fait, c'est pas un péché. C'est recommandé que ce soit la même personne. Mais si, par exemple, la personne qui a fait l'adhan n'est pas capable de le faire ou ne peut pas le faire, par exemple, et quelqu'un d'autre est disponible, eh bien, c'est permis que quelqu'un d'autre le fasse. Ensuite, le cheikh, il dit que al-iqama, c'est relié, son temps est relié avec la vue de l'imam. Et c'est l'imam qui donne le signal à la personne pour faire l'iqama. Donc, c'est relié avec la sortie de l'imam, pour l'arrivée de l'imam pour la prière, et c'est l'imam donc qui décide quand est-ce que la personne doit commencer son iqama. Et donc, al-adhan, juste pour parce que le cheikh a seulement mentionné que c'est 15 phrases, mais juste pour vous donner l'exemple, c'est Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, Hayya ala as-salah, حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Donc ça c'est les phrases qu'on dit dans le adhan. Et dans l'iqama on dit Allahu Akbar Allahu Akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna Muhammad Rasulullah حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Donc ça c'est la description du adhan et la description du iqama, d'accord. Et c'est important que chaque musulman soit capable de le faire, parce qu'on sait jamais, lorsque tu es chez toi, lorsque tu es ailleurs, ou bien si tu es en voyage ou dans une autre occasion, tu as toujours besoin de connaître comment faire ton iqama. D'accord, donc barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, et puis demain on continuera avec les conditions de la salat. C'est quoi les conditions de la salat? On va les expliquer demain inshallah. Donc je vous remercie, et puis qu'Allah rende cette connaissance bénéfique pour vous tous, et qu'il nous bénisse, qu'il nous donne le baraka, hein. وأن يرزقنا بالعلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين. إلى أن إن شاء الله. السلام عليكم.